Donc en fait, le projet urbain de la ville de Paris sur le site, c'était un projet urbain avec un programme assez classique qui avait été déjà discuté pendant des années, avec 60 000 m², donc une densité relativement élevée, de la conservation de certains bâtiments patrimoniaux, l'oratoire, la lingerie, Robin. Mais dans les 60 000 m², donc il y avait un gymnase, une école, une crèche, et il y avait 48 000 m² de logement. Donc c'est un quartier qui était très à dominante résidentielle, très fortement résidentielle. Et donc nous, dès qu'on arrivait, on avait réinterrogé plusieurs questions. La première, c'était de dire, on avait un programme de 600 logements. Donc là, il rentrait dans les 48 000 m². Donc nous, on a dit, peut-être que ces 600 logements, ils peuvent, en compactant bien les choses, en étudiant bien les choses, rentrer plutôt dans 42-43 000 m², et qu'on ait 5 000 m² pour faire autre chose. Parce qu'il y avait toute la question des cours anglaises qui existaient déjà, et nous, on pressentait que c'était potentiellement un super lieu pour faire des lieux de travail alternatifs, etc.
Et qu'est-ce qui t'intéresse à les cours anglaises ?
Ben, en fait, il n'y en a pas à Paris, déjà, parce que tous les problèmes qui existaient en Europe sur la surdensité, etc., sachant que Paris, c'était quand même une ville hyper dense, avec plein de tuberculose, plein de maladies, etc., sous Haussmann, on a interdit les cours anglaises, ce qui existe en Angleterre, ce qui existe partout, etc. À Saint-Vincent-de-Paul, c'est en gros les hôpitaux qui avaient besoin de place, qui ne pouvaient plus trop monter en hauteur, qu'on creusait en dessous pour faire des laboratoires. Et nous, on s'est dit, ben, ces cours anglaises, dans les bâtiments qu'on va conserver, elles existent. On ne va pas y faire habiter des gens, parce que ça serait, voilà, c'est contre l'esprit de Paris depuis des siècles et des siècles. Mais par contre, c'est peut-être des endroits où on va pouvoir introduire de l'activité, et de l'activité un peu différente. Parce qu'on est dans un quartier qui est très résidentiel, qui n'a pas de valeur locative pour du bureau, du tertiaire supérieur, des choses de six plats, etc. Ce qui intéresse toujours les aménageurs, ça ramène de l'argent. Donc on a dit, bon, on a ces locaux, peut-être qu'on pourrait y faire un truc alternatif. Après, on avait posé des fondements un peu en disant que le bâtiment Pinard, en fait, c'est celui qui est devant nous, là, qui est un bâtiment des années 30, pas très haut, qui est un bâtiment à la fois moderniste et à la fois dans un style régionaliste assez particulier, avec une très belle, des très belles modernatures de briques. Ça a été la première maternité moderne construite dans Paris. Livré en 1934, avec des chambres, des mamans qui accouchaient, etc. Et donc, c'est pas un bâtiment classé, protégé, démentiel, etc. Mais il est hyper intéressant. Et dans l'histoire sociale de Paris, on a estimé que dans ses 70 ans d'activité, il y avait 400, 500 000 Parisiens qui sont nés là. Donc, c'est un lieu pour nous qui était prévu, il était prévu qu'il soit démoli. Et donc, nous, on a dit, ce bâtiment, il faut à tout prix le garder. Donc là, c'était vraiment le bâtiment où les enfants naissaient, etc. Donc, on a dit, dans ce lieu-là, qui est un peu au fond du site, au calme, on va proposer ce qu'on a appelé, entre guillemets, le super équipement. C'est un mot qui est resté, mais c'était l'idée de se dire, on va faire le lieu pour l'enfance, où on va mettre l'école, la crèche sur le toit, il y a un parking souterrain qu'on va dégommer, on va y mettre le gymnase, et en fait, on va faire un lieu qui va permettre de mutualiser une partie des services de la ville de Paris, la cour. On la voit pas très bien là d'ici, mais elle fait 1000 m², donc elle est beaucoup plus grande qu'une cour d'école normale à Paris. Donc on a dit, autant faire un lieu super généreux, dédié aux enfants. Et comme le quartier va être assez dense, si on arrive à ouvrir cette cour le week-end, les enfants pourront faire du basket là, sans embêter tous les gens qui habitent autour. Parce que s'ils le font dans l'espace public juste en bas, ils vont embêter tout le monde. Donc on avait ces idées un peu d'inventer un nouveau lieu, etc. Et puis évidemment, il y a les grands voisins qui sont arrivés avec leur créativité, leur génie, leur insouciance, tout. Et ils ont été au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer. C'est-à-dire que les locaux d'activité où on disait ça serait bien, ils en ont mis plein. Et puis ça a super bien marché. Et puis loué pas cher. Et il y a un vivier, une sorte de ruche qui s'est créée. Et ça, c'était hyper riche. Le café qu'on imaginait, il y a la lingerie qui devait être démolie et qu'on avait démolie dans nos premières hypothèses de projet. Du coup, suite aux grands voisins, elle a été pérennisée et c'est vachement bien. Donc, on a retravaillé notre plan masse pour l'intégrer. Il y avait 800 m² de programmes commerciaux dans le projet qu'on trouvait intéressant. Et en fait, quand on est arrivé, il y avait eu plein d'études d'experts du commerce qui disaient « ce site n'a aucune commercialité ». Parce qu'on est à côté de la rue Daguerre, c'est pas assez dense, même si on va amener 600 logements, donc ça marchera jamais. Et donc, nous, on a dit, ces 800 m² de commerce, on va les mettre dans la cour de Robin. Donc là, les experts, ils ont dit en plus, non, mais c'est la cour de Robin, on peut pas démolir la façade sur l'avenue parce qu'il y a des fenêtres anciennes, etc., et c'est assez intéressant. Donc, il n'aura aucune visibilité, ça marchera jamais, les réflexes habituels. Donc, nous, on a dit, c'est comme dans une cour dans le Marais, où ça devient un lieu de destination, on y va pour faire des courses, etc. C'est resté dans le programme, c'est resté, puis on a dit on verra. Et puis les grands voisins, version 2, donc après 2018, dans la version plus petite, bah, ils ont préfiguré le projet urbain, donc c'est là où la connexion s'est faite. Et bah, y a la boulangerie qui marche super bien, il y a d'autres commerces, il y en a d'autres qui avaient ouvert avant, la ressourcerie, le fleuriste dans la cour de l'oratoire, etc. Et on voit qu'en fin de compte, bah, ça marche. Si on crée des produits différents, des trucs qui ne sont pas des commerces de chaîne, etc., on arrive à faire des lieux un peu différents. Il y avait les questions de rendre le site traversant, puisqu'il peut être, on peut créer une rue entre l'avenue d'Enfer-Rochereau et la rue Boissonnade qui est juste derrière. Donc désenclavé, une parcelle enclavée, tout ça, bon, le discours normal des urbanistes. Et nous on disait, mais non, en fait, ce lieu-là, c'est pas une enclave, c'est un enclos. Historiquement, les grands terrains à côté, c'était aussi des enclos monastiques, comme celui-ci l'a été avant qu'il soit un hôpital. Ce qui est intéressant dans la notion d'enclos, c'est qu'il y a une notion de domesticité, de confort, de paisibilité, qu'on trouvait super intéressante. Et ben, dès le début, dans notre première hypothèse, c'est ouvrir l'enclos. Mais c'est quand même garder l'enclos. Et puis, donc, les grands voisins qui sont arrivés, qui ont pris tout le site en gestion, ils ont montré qu'avec une seule entrée, un quartier piétonnier, on fait un truc génial. Parce que les enfants, ben, ils peuvent se balader partout, ils sont en liberté, ils ne rencontreront pas de voiture. Par contre, ils rencontreront d'autres publics différents, etc. Et c'est un lieu de mélange qui est hyper intéressant. Et ça, les grands voisins, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse inventer quelque chose d'aussi puissant. Après, par rapport à l'enclos, on va être obligé de l'ouvrir quand même. Parce qu'il faut quand même imaginer qu'aujourd'hui, il y avait, dans le temps fort des grands voisins version 1, il y avait 600 personnes qui étaient hébergées sur le site. 600 jusqu'à presque 1000, je crois. Mais c'était des célibataires, en gros. Là, on va accueillir 600 logements et beaucoup de logements familiaux. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 1500 personnes qui vont habiter le site, des enfants qui iront à l'école, etc. Donc là, d'avoir une seule porte d'entrée, même pour des questions de sécurité incendie, etc., c'est assez complexe. C'est impossible. Donc on a proposé qu'il y ait une seule porte d'entrée qui permette aux véhicules de secours, aux taxis, aux déménagements d'accéder, comme aujourd'hui l'entrée actuelle des grands voisins, et qu'après, l'entrée par Robin, ça soit une entrée piétonne, l'entrée par l'oratoire, c'est une entrée piétonne, et l'entrée sur la rue Boissonnade, on laissera un passage sous porche, un passage piéton. Donc c'est vraiment l'idée d'ouvrir le quartier, mais pas de l'ouvrir à tout vent. Nous, on avait des intuitions, on disait qu'il faut faire un quartier entièrement piéton. C'était déjà un peu dans le quartier, dans le projet de l'éco-quartier, il y avait toujours la question, est-ce qu'il faut faire du stationnement, machin, parce qu'il y a des logements, tout ça. Des logements neufs, il y aura des logements de standing, donc on a besoin de vendre des places de parking, tout ça. Donc nous, on disait, ben non, on fait un quartier sans stationnement, et le seul endroit où éventuellement on en fera, c'est sur l'îlot d'enfer, celui qui est directement accessible depuis l'avenue, pour que les voitures ne rentrent pas dans le site. Il s'avère que les grands voisins, en faisant un lieu qui a accueilli autant de monde, qui était entièrement piéton, et ils nous ont permis de démontrer que c'était possible. En fait, ils ont conforté beaucoup de nos intuitions sans qu'on leur demande de le faire et sans qu'on en discute préalablement. Donc c'est vraiment une conjonction de bonnes étoiles.
Il y aura des hébergements d'urgence.
Il y en aura, ouais. Et ça c'est un acquis aussi des grands voisins de Aurore. C'est-à-dire que dans le projet, il y avait 50% de logement social qui était du logement plutôt familial ou peut-être étudiant, on ne savait pas trop. Et là, il y aura un hôtel social dans le projet qui sera porté par, je crois, dans l'îlot, donc qui sera dans l'îlot chaufferie porté par Paris Habitat.
Pendant un temps, les grands voisins ont ouvert le toit de Colombani.
Oui.
L'expérience de la ville, c'est aussi l'expérience d'un point haut.
Ouais.
Et un peu le comme un belvédère, quoi.
Ouais.
Est-ce que dans le projet, là, la question du toit, c'est quelque chose que vous avez gardé ou voulu garder ?
Alors, ce qui est intéressant sur Colombani, c'est que les grands voisins, à l'origine, le camping qu'ils ont fait pour la COP, c'était quoi ?
21.
Qui était derrière le bâtiment Le Long, à côté de la Fondation Cartier, ils voulaient le faire sur le toit là. Et pour des questions de sécurité, ils n'ont pas réussi à le faire. Et comme c'est des gens hyper têtus, qui lâchent rien, ils ont réussi à l'ouvrir à un moment au public. Et donc, c'est vachement bien. Et ça, nous, on partage ça. Évidemment, il faut imaginer qu'il y aura quand même 1500 habitants. Donc, accéder à des toits de logement dans des copropriétés, etc., ça marche super bien à Copenhague, ça marche super bien dans certains pays. En France, on a eu quelques mauvaises expériences. Donc là, ce qu'on a demandé dans le cadre des différentes consultations et des concours, c'est que les toits ils soient des lieux particuliers, au moins pour les habitants. Donc dans ce bâtiment-là, on ne sait pas s'il y aura une terrasse collective ou si ça sera pour les quelques logements en haut. Et en fait, dans tous les projets, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi dans le règlement d'urbanisme de la ville de Paris, les toits qui font plus de 500 mètres carrés, donc c'est le cas de tous les nouveaux îlots, ils doivent être accessibles, praticables ou ouverts à de l'agriculture urbaine. Donc ça, c'est une première chose. Et par contre, le seul toit qu'on a vraiment, c'est le toit du bâtiment Pinard, qui aujourd'hui est couvert de tuiles. Et en fait, cette grande maternité des années 30, quand on regarde les bâtiments, il y a le bâtiment en haut là, qui fait deux étages, on voit que on voit mieux d'en bas. Mais c'est le toit d'origine. Et puis il y a deux ailes latérales qui sont aussi couvertes par un toit en tuiles. Et on voit par le dessin des corniches, etc., à l'origine, ces deux ailes latérales, elles avaient un toit terrasse. Et ce toit terrasse, en fait, c'était l'hygiénisme des années 30, puisque beaucoup de gens dans Paris habitaient dans des taudis. Il y avait quand même, en 1950, il y avait quasiment la moitié des logements parisiens qui n'avaient pas de salle de bain, qui n'avaient pas de toilette. Donc le moment où on venait à la maternité, c'était un moment aussi un peu de, où on se faisait un peu de bien. Et donc dans les années 30, quand le bâtiment était conçu, il y avait des toits terrasses accessibles, comme les sanatoriums, où on allait prendre le soleil. Donc nous, très vite, ce qu'on avait proposé pour ce bâtiment-là, c'est de redécouvrir les toits. L'aile des années 70, elle va être peut-être reconstruite ou retravaillée, mais elle a un toit plat, donc on peut faire un grand toit qui communique. Aujourd'hui, il y a une consultation en cours d'architecte, mais nous, on avait prévu, dans une des esquisses, de mettre la crèche au dernier étage, avec les cours de crèche au dernier étage, d'avoir de l'agriculture urbaine en toiture, et tout ça, parce que c'est un bâtiment qui est hyper intéressant, qui a plein de cages d'escalier, de donner des accès à la cour, comme je disais, le week-end, et donner accès au toit le week-end. Donc là, du coup, de ce bâtiment qui ne sera pas le plus haut, de pouvoir être au cœur quand même, quand on est sur le toit, là où on voit toutes les ventilations, on a quand même une grande impression d'espace, notamment à cause des arbres là, qui sont juste à côté, qui dégagent un grand paysage, où on voit bien, on voit aussi très bien la tour Montparnasse, on voit le dôme de l'oratoire, etc. On ne sera pas sur les points hauts, mais on sera déjà pas mal.
En fait, en définitive, vous conservez quand même pas mal de bâtiments.
Et on garde, à l'origine, ce qui était demandé, c'était de garder à peu près 35-40% des bâtiments et on en garde 60%. Donc on en garde plus que ce qui était demandé. Mais c'était aussi notre démarche qui a permis ça. Mais c'était le principe. Après, nous, on aime bien, on fait beaucoup de travail, beaucoup de projets, parce qu'on est urbaniste, aussi architecte, on fait du réemploi, des choses de ce type-là. Donc on aurait bien aimé tout conserver, mais le programme n'y rentrait pas.
Tu penses que c'est possible, à l'avenir, de candidater sur des projets comme celui-là, directement avec un projet type pièce lucante? C'est-à-dire de dire, vous avez un site, on vous propose en deux phases, une première phase, une phase d'activation, ouais. Même trois phases. Première phase, phase d'activation, deuxième phase de préfiguration, puis troisième phase, construction.
Disons pièce lucante, ils ont fait recette. Donc aujourd'hui, dans tous les appels à projets qu'a lancé la ville de Paris ou la métropole, tous les promoteurs, même les pas bons, ils répondent avec ce truc-là. Donc c'est devenu un peu un outil de com et un outil de vente des projets. Donc après, il ne faut pas perdre son esprit et pas galvauder le dispositif. Aujourd'hui, il y a des boîtes d'urbanistes temporaires qui font comme les grands voisins, mais sans l'hébergement d'urgence, sans les pauvres. Qui font que des trucs un peu festifs pour rendre les lieux connus, qui font de l'activation, mais de l'activation communication.
Le mobilier, le mobilier urbain.
Ouais.
Comment il va être pensé? Parce qu'ici, la spécificité, c'est que le mobilier, il est mobile.
Ouais.
Et c'est quand même un enjeu fondamental.
C'est vrai. En fait, le mobilier urbain mobile, c'est hyper compliqué. T'en as aux Tuileries, mais c'est un jardin d'État, c'est fermé le soir. Il y en a au Luxembourg, les super chaises,
ouais.
Mais c'est gardienné, c'est fermé le soir. Il y en a à Place de la République,
Il y en a place de la République.
Ouais, il y a du mobilier type Jardin des Tuileries, la ferme mob, sur un coin de la place au nord des skateurs qui ont un truc libre. Et tous les soirs, il y a un container rouge, il y a quelqu'un qui vient, qui ramasse et qui les compte et qui les range. Okay. Alors que c'est un espace public hyper ouvert. Le truc qui est un peu compliqué en France, c'est de laisser des trucs dans un espace ouvert en se disant il n'y a pas quelqu'un qui va le ramener chez soi. Alors, je sais pas. Mais c'est un vrai sujet, donc ça veut dire que pour que ça marche, peut-être, et c'est une des questions qui est soulevée aujourd'hui par le quartier, c'est des questions que se pose l'aménageur Paris-Batignolles, qu'on se pose aussi avec le super équipement, que se pose la mairie du 14e, tout le monde. Comme on est sur un lieu avec peu d'entrée, peut-être, nous on travaille ça dans d'autres projets, mais c'est des questions qui sont aujourd'hui ouvertes, qui impliquent les services de la ville de Paris, etc. Savoir comment est-ce qu'on va gérer le lieu, est-ce qu'il y aura une sorte de régie de quartier et ben, quelqu'un comme un régisseur qui va s'occuper de ranger les trucs, de surveiller, de réparer.
De conciergerie, en fait.
Voilà, exactement. Et ça n'existe pas aujourd'hui à Paris, mais aujourd'hui, la question sur le super équipement, ça a permis, les directions de la ville de Paris, elles travaillent de manière séparée. Les crèches, ce n'est pas la même direction que les écoles, et c'est pas la même que les gymnases. Ils ont chacun des marchés publics pour la gestion qui sont différents, le gardiennage, le ménage, c'est pas les mêmes, etc. Donc là, avec le super équipement, on a dit, ben, si on mutualisait vos moyens, on pourrait retirer la biberonnerie de la crèche et en faire qu'une, partager avec l'école et tout ça. Donc ça leur a posé plein de questions de gestion qu'ils sont en train d'explorer là en ce moment, et ça va peut-être arriver à s'étendre au quartier. Alors moi, autant dans d'autres projets on s'en occupe, autant là on balance des idées et puis on a d'autres qui en ont des bien meilleurs que nous et qui font marcher le système. Je sais pas où on en est sur ce sujet-là.
Mais il y a une réflexion au cours.
Ah ouais, bah ça fait partie vraiment des trucs intéressants des grands voisins. C'est le côté, j'allais dire, la liberté, c'est le côté libertaire même.